Sacks waiting on deck, but the game right now is at the plate. High fly ball into right field. She is gone! In a year that has been so improbable, the impossible has happened.
Bonjour à toutes et à tous, et avant de commencer, bonne année et meilleurs voeux à tous. On est ravis de vous retrouver en 2022 pour toujours plus de baseball sur The Strikeout. Et pour fêter ça, on a décidé de vous gâter puisque c'est tout simplement le retour de la série préférée, de ta série préférée, en toute franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Alors on s'était quitté la dernière fois avec l'épisode 15 et les Astros au cœur de l'été. On est donc de retour pour terminer notre voyage découverte des équipes du baseball majeur, et pour le début de cette deuxième partie, on reprend tranquillement avec la petite dernière de la MLB, les Arizona Diamondbacks. Arrivée en 98 dans la ligue, l'équipe de Phoenix a grandi vitesse grand V pour devenir la franchise à remporter un titre le plus vite après sa création, puisqu'il a fallu attendre uniquement 2001 et en battant au passage les mythiques Yankees pour que la franchise de Denver s'offre son premier titre et unique titre de champion. La franchise de Phoenix, hein, évidemment, Denver, c'est du côté de Colorado, mais vous avez un peu compris, c'est dans le désert des États-Unis, et donc la MLB a décidé d'implanter une nouvelle franchise, histoire que ça soit un peu moins vide, on va dire. Mais depuis ce titre en 2001, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il n'y a que 4 qualifications en play-off à compter à ce jour, et en même temps, hein, difficile d'exister lorsqu'on évolue dans la division des San Francisco Giants ou des Los Angeles Dodgers. Mais le club est quand même parvenu à se faufiler pour tenter de s'accaparer un peu de lumière de la post-saison. Et pour nous accompagner aujourd'hui, j'accueille évidemment mon acolyte de toujours, Bastien. Salut Bastien, comment vas-tu ?
Salut Martin, mais écoute, ça va très bien, bonne année à toi.
Bonne année à toi aussi. On te retrouve pour parler encore une fois d'une franchise un peu plus en difficulté. On va dire que ça va en train de devenir ton dada, hein.
On va dire que les losers, c'est un peu mon créneau quand même. Hein. Les déserts, les losers, les palmarès un peu... un peu à poil, c'est mon dada, oui.
Donc on va y aller. Je vous propose de partir à la découverte donc de ces 10 backs. Alors prévenez vos meilleurs charmeurs de serpents, car direction le désert de l'Arizona pour parler des Diamondbacks. Alors Bastien, je l'ai dit en introduction, hein, les D-backs sont les petits derniers de la MLB, donc bien à Phoenix, hein, et pas à Denver. Et on peut même dire que le baseball a mis du temps à arriver, puisqu'il faut remonter qu'en 1958 pour découvrir du baseball pro là-bas.
Oui, absolument. Bon, après, c'est vrai qu'on parle d'une époque où Phoenix existe comme petite ville, mais n'existe pratiquement pas. Il faut savoir qu'entre 1940 et 1995, on va y revenir, la population de Phoenix est passée de 65 000 habitants, qui a fait à peu près la taille de Levallois-Perret, hein, à 4 500 000 habitants, je crois, 4 500 000 habitants actuellement. Donc, on est passé vraiment de la taille de Levallois-Perret à deux fois la taille de Paris Intramuros. Donc, ça explique aussi qu'à l'époque, il ne se passe pas grand-chose dans le désert. Hein. Il y a quand même du baseball qui est arrivé dès 1947, sous l'impulsion de Bill Vick quand il a racheté les Indiens, parce qu'il a eu des problèmes avec le racisme en Floride, sur les lieux de la Grapefruit League. Donc, il a envoyé ses Indians faire leur préparation hivernale en Arizona. Il a attiré les Giants qui sont venus l'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, la Cactus League s'est développée en Arizona, donc autour de Tucson, de Phoenix, de Mesa.
Et on rappelle, hein, la Cactus League, c'est le petit championnat de pré-saison qui a lieu au mois de mars pour que les équipes se préparent justement avant le début de la grande saison MLB.
Voilà, avec 15 équipes en Grapefruit League en Floride et 15 équipes donc maintenant en Cactus League en Arizona. Donc, c'est là que le baseball professionnel est arrivé pour la première fois, même s'il n'était pas forcément compétitif. En 1958, les Phoenix Firebirds sont créés. Donc là, cette fois, c'est une équipe de AAA affiliée au San Francisco Giants, qui va rester affiliée au San Francisco Giants pendant toute son existence à Phoenix, puis à Tacoma, puis à Fresno. ils vont, dont les propriétaires vont même essayer déjà pour une première fois de lancer une équipe majeure. Ils vont essayer de profiter en 1988 du déménagement des San Luis Cardinals, donc pas les San Luis Cardinals du baseball, mais les San Luis Cardinals du football américain, à Phoenix, qui vont devenir les Arizona Cardinals qu'on connaît aujourd'hui. Ils vont essayer de profiter de ce dégagement pour partager un stade, ce qui ne va pas se faire finalement parce que les Cardinals vont décider de partager un stade avec l'Université d'Arizona. Mais les graines sont plantées. Et il y a quand même une intention, puisque je viens de le dire, hein, la ville de Phoenix est en train de se développer énormément. Donc, dans les années 90, on en est à 2 millions d'habitants. Hein. Et donc, on a une ville en plein boom. On a une jeune qui a une équipe de basket déjà bien implantée, qui a une franchise de football américain qui vient d'arriver, qui va bientôt avoir une équipe de hockey sur glace. Et un peu plus tard, une équipe de basket féminin qui va fonder qui va être part de la fondation de la NBA féminine. Et donc, il y a une grande place qui se fait pour le baseball et le AAA ne suffit plus.
Et bah oui, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, à Phoenix, il ne manquait plus qu'une équipe de MLB. Hein. Tu l'as dit, tous les autres sports majeurs américains sont arrivés dans le désert. Et justement, cette ambition de fonder une franchise MLB, c'est en grande partie l'œuvre d'un homme qui a déjà beaucoup œuvré pour le sport dans l'Arizona. C'est un certain Jerry Colangelo, qui est également le propriétaire des Suns en NBA. Et des Suns également qui ont du mal un peu en NBA pour aller chercher le titre. Et donc Jerry Colangelo décide de frapper un grand coup et de fonder les Arizona Diamondbacks.
C'est ça. Il faut savoir que Jerry Colangelo, bon déjà les amateurs de basket qui nous écoutent connaîtront le nom, puisque lui et son fils Brian Colangelo ont été très importants dans les destinées des Suns. Ils se sont retrouvés à Philadelphie et le fils s'est passé par Toronto, par les Raptors également en tant que GM. Mais Colangelo, en fait, un bon joueur de basket universitaire, mais qui très rapidement après l'université va se rendre compte qu'il est bien meilleur dans les bureaux. Il va d'abord passer chez les Bulls un petit peu pour faire ses classes au marketing, puis au coaching, puis au scouting. Et puis très rapidement, en 1968, je crois, il va se retrouver à être le general manager des Phoenix Suns qui viennent d'être créés avec la nouvelle expansion NBA. Donc ça se passe plutôt bien au début. Il a une première participation aux Finals NBA qu'il ne gagne pas en 1973 ou 1976. L'équipe se construit bien. Dans les années 80, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, amener un groupe d'investisseurs pour décider de racheter la franchise. Et là, il va vraiment attaquer, avec notamment un énorme trade pour ramener Charles Barkley. Donc encore une fois, c'est toute la fondation qui amènera au final NBA entre les Bulls de Jordan et les Suns de Charles Barkley en 1993.
Oui, effectivement. Et puis, on peut dire que cette stratégie, entre guillemets, de Colangelo de recruter une grosse star pour aider son équipe, ça va le suivre tout au long de sa carrière, que ce soit avec les Suns ou avec les Diamondbacks.
C'est ça. L'idée, c'est que sans une grosse star, tu ne peux pas exister, surtout quand on arrive maintenant, en plus dans les années 90, à l'époque des grosses stars, hein, donc, que ce soit les Jordan, donc Barkley, les Johnson. Donc, c'est un peu l'idée. Mais le basket, c'est bien, mais ça ne lui suffit plus après un moment. Et un soir, l'histoire dit qu'il est en balade à Chicago après un match des Suns, et qui va faire un tour à Wrigley pour regarder le baseball et qui se dit tiens mais ce serait quand même une bonne idée d'amener le baseball majeur à Phoenix. Donc ça se passe vers 93-94. Il va se rapprocher de la MLB, obtenir le soutien de Jerry Reinsdorf de Chicago, parce que c'est quand même un gars de Chicago, Colangelo, hein, il a tous ses contacts là-bas. De Bud Selig, le commissionnaire. Et un an plus tard, en 1995, il a sa licence pour créer un ball club. Il paye une charge initiale de 130 millions de dollars et il est autorisé à commencer la construction du stade de Phoenix, qui s'appellera au début le Bank One Ballpark. Voilà,
et
c'est fait.
On connaît maintenant ça, basique. On le connaît maintenant sous le nom de Chase Field, hein, ce stade qui est d'ailleurs plutôt pas mal.
Donc, on en arrange quelques petites choses ici à droite et à gauche, parce qu'à la base, les Diamondbacks devaient rejoindre l'American League, mais il y a une question des équipes d'American League East, notamment, qui n'ont pas vraiment envie d'un autre, d'une autre équipe à l'ouest des États-Unis, qui en plus leur oblige à jouer des matchs à des heures qui ne soient pas compatibles avec la TV, avec les channels, les grilles TV de l'Est. Donc finalement, les D-backs sont ajoutés à la National League pendant que les Brewers passent en National League. En même temps, les Rays sont créés également et aussi sont ajoutés à l'American League. Donc ce qui amènera un peu plus tard, en 2013, à la réorganisation, puisqu'à ce moment-là, on a 16 équipes de National League, 14 League. Équipes d'American League. Et donc, ce qui amènera à la relocalisation des Astros en 2013 pour faire deux ligues de 15 équipes.
Voilà, donc ça, il a fallu un petit micmac du côté de la MLB pour que on contente tout le monde. Et donc, nos amis des Diamondbacks arrivent dans une division plutôt corsée, comme je l'ai dit en introduction, avec les San Francisco Giants, dont les années 2000-2010 ont été quand même plutôt correctes. Les Dodgers, la franchise mythique, il y a également les San Diego Padres et leurs voisins. C'est pour ça que j'ai fait un peu le petit lapsus tout à l'heure, leurs voisins des Colorado. Rockies, et donc on arrive donc en 95, tu l'as dit, Colangelo a tous les feux verts pour créer la franchise, et donc il se met à construire tout simplement.
Oui, voilà, et donc en fait, au début, il va construire en piochant à la fois dans l'organigramme des Suns, puisqu'il a déjà quand même une belle infrastructure en place, il a comme une équipe bien installée à Phoenix, et dans le monde du baseball, pour essayer d'être compétitif. Vraiment, l'idée, c'est d'être compétitif immédiatement. Il va aller chercher Buck Showalter, qui vient d'être débarqué des Yankees, qui aurait probablement dû gagner un titre avec les Yankees à cette époque-là. C'est peut-être pas la dernière fois que ça va lui arriver, d'ailleurs.
Qui gagne un titre à New York, c'est ça que tu veux dire, puisque pour avoir l'actualité, Buck Showalter vient d'être nommé manager des Mets au moment où on enregistre cette émission. Donc peut-être que c'est un rendez-vous manqué qui ne le sera plus.
Voilà, il a quand même une habitude dans sa carrière de s'être fait saquer un an avant le titre. On va le voir dans un instant avec les Diamondbacks, et c'est possible que ce soit aussi une question d'avenir à New York, mais on ne peut pas...
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, exactement. Et donc, il recrute donc Showalter 2 ans avant les débuts de l'équipe en Major League. Pour dessiner les contours sportifs de la franchise, prépare la draft d'expansion qui va être tenue en 1997, donc avant la saison 1998, qui sera la première. Et donc, tout se met en place. Ah, évidemment, l'expansion draft, hein, ce n'est pas ça qui va créer permettre à une équipe d'être rapidement compétitive, puisque tout ce qu'on offre aux équipes d'expansion, donc aux Rays et aux Diamondbacks, c'est des joueurs qui ne sont pas protégés par leur équipe, un joueur par équipe et par tour. C'est pas vrai, voilà, tu vas pas avoir des superstars.
Voilà, je voulais te demander justement qu'est-ce que c'était l'expansion de draft, mais tu as répondu à la question. C'est vrai que c'est un processus quand même assez intéressant, c'est-à-dire que toutes les autres équipes qui ne sont pas nouvelles décident de protéger une liste de joueurs dans leur groupe, et tous ceux qui sont laissés en dehors, entre guillemets, sont... disponible justement à cette draft d'expansion, et ceux qui ne sont pas choisis mais qui étaient disponibles à cette draft d'expansion reviennent dans leur franchise d'origine, et donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs on va dire corrects mais pas des très très bons joueurs, quoi.
Sachant qu'en plus à chaque tour de l'expansion draft, les équipes existantes peuvent protéger un joueur de plus, donc petit à petit vraiment on peut créer une équipe capable de jouer au niveau major, on ne peut pas créer une équipe capable d'être compétitive au niveau major. Du coup, ce que fait Colangelo, parce qu'il sait par expérience que quand tu as une fenêtre, elle ne va pas se rouvrir forcément tout de suite. Et chez les Suns, elle s'est ouverte en 76, en 93. Et je ne suis pas le basket de très près, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit ouverte depuis.
Si, en 2020, ils sont allés en finale, et ils ont perdu contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Donc ils ont une fenêtre en ce moment, on va dire.
Exact, pardon. Voilà, tu vois à quel point je suis le baseball,
Le basket moderne, effectivement. Mais pour ça, je vous conseille d'aller suivre de nombreux podcasts, notamment nos amis de chez Hype, qui font du très bon travail.
Et donc, Colangelo, il a bien compris que si tu veux gagner faut, et que tu as une opportunité, il faut le faire vite. Alors, il fait chauffer le carnet de chèques dès les premières années. Première chose qu'il fait, c'est qu'il signe l'All-Star Jay Bell, c'est sa première recrue, avant même l'Expansion Draft. Donc, il le signe quelques jours avant et il sera officiellement une recrue le lendemain de l'Expansion Draft. Il va recruter deux autres All-Stars très rapidement, Matt Williams et Devon White. Jay Bell et Matt Williams, on en parlera plus tard parce qu'ils seront quand même au cœur du plus grand moment de l'histoire des D-backs. Et très rapidement, il va construire autour des joueurs draftés une équipe très compétitive.
C'est sûr, et oui, mais on va dire que comme d'habitude, la première saison, donc la saison d'Expansion Draft, pour les nombreuses franchises, elle est compliquée. Ce sera le cas pour les D-backs qui vont finir avec 97 défaites au compteur. Mais pourtant, en 99, les choses vont tourner avec déjà une première participation en playoff pour nos amis de Phoenix. Et ça, c'est grâce à Colangelo. Tu l'as dit, Bastien, il a une soif de victoire et il avait déjà frappé fort donc avec les recrues dont tu lui as parlé. Mais il sent il manque quelque chose dans cette équipe. Une superstar. Et c'est là où ils vont frapper très fort et choquer l'entièreté du monde du baseball en s'offrant tout simplement l'un des meilleurs lanceurs de l'époque, le gaucher Randy Johnson. Et c'est comme ça que le début de l'âge d'or du lanceur, mais également de la franchise, vont commencer.
Absolument. Donc en 99, ils offrent un contrat de 4 ans et 52 millions à Randy Johnson. Randy Johnson qui a été Cy Young avec Seattle en 1995. 15, je crois, ou 96. On en parle dans l'épisode en toute franchise sur les Mariners, justement.
En 95, tu as raison.
Ouais. 95, ouais. Et qui à ce moment-là, est un très bon lanceur, mais n'a pas encore atteint son sommet absolu. Ça ne va pas tarder. Donc, il lui offre ce bon gros contrat pour 4 saisons. En même temps, ils vont recruter encore d'autres All-Stars. Ils vont recruter Tony Womack et Steve Finlay. Et surtout, ils vont recruter un joueur qui n'est pas encore All-Star, mais qui va être l'autre superstar des grandes années des D-backs, qui est le slugger Luis Gonzalez, qui à ce moment-là joue chez les Tigers et avant évoluait chez les Orioles. Et donc, après une première saison moyenne, comme tu dis, hein, 65 victoires, la deuxième saison en 99, ils vont déjà faire une saison à 100 victoires. Donc, c'est assez exceptionnel hein, pour une deuxième saison vraiment en tout début d'existence de la franchise. Ils vont remporter évidemment la NL West et avant de tomber face aux Mets, donc aux Mets, les Mets de 2001 qui sont de 99, qui l'année suivante en 2000 allaient jusqu'en World Series pour les fameuses Subway World Series face aux Yankees. Hein. Et Randy Johnson, quant à lui, remporte le premier de 4 Cy Young Awards consécutifs sous l'uniforme des D-backs. Donc du coup, ce que vont faire les D-backs et Colangelo, c'est qu'ils vont se dire, bon, c'est bien Randy Johnson, mais si on allait chercher Curt Schilling.
Donc, la légende.
Voilà, la légende Curt Schilling. Donc l'année suivante, en 2000, c'est Curt Schilling qui va rejoindre les D-backs. Et ça va pas forcément se passer comme prévu, puisque les D-backs vont faire un petit recul quand même au niveau de leurs résultats. Avec une saison positive, 85 victoires, mais dans une division très très relevée avec notamment les Giants de Barry Bonds qui vont remporter la division. Donc pas de participation aux playoffs, Buck Showalter est viré. Un an avant le feu d'artifice, comme je disais à l'époque, et on va recruter un ancien receveur des Giants, Bob Brenly, qui va connaître son moment de gloire. Il fera pas grand chose avant, il fera pas grand chose après. Très rapidement, il ira devenir commentateur à la télé. Il a eu des soucis d'ailleurs. Mais en attendant, c'est lui qui va accompagner le moment. La saison régulière.
Alors, ce moment, on y arrive, vous le sentez, on commence à le faire monter en pression. C'est donc cette saison de 2001. Pour nos amis des D-backs, qui restera dans la légende, puisque je l'ai dit en introduction, hein, ça va tout simplement être un record en MLB de remporter un titre aussi rapidement après sa création. Et donc, comme tu l'as dit, Bastien, cette équipe commence à prendre forme, les joueurs commencent à se connaître un peu plus, et donc forcément, il va y avoir cette montée en puissance en 2001, et ça commence dès la saison régulière, quoi.
Ça commence dès la saison régulière, même si c'est pas forcément facile parce que les Giants ne lâchent rien, les Dodgers ne lâchent rien. les D-backs vont vraiment, vraiment s'appuyer sur le duo Johnson-Schilling, qui va quand même, ils vont quand même remporter 43 victoires à eux deux. Et les 57 home runs de Luis González, hein, qui, bon, on y reviendra, mais il a atteint un niveau, lui qui existait, qui était là depuis les années 90, qui est entre incroyable et stupéfiant, on va dire.
C'est le cas de le dire pour ceux qui auraient compris un peu la période dans laquelle on parle, effectivement.
Mais ça reste un groupe dense et homogène, mais qui manque peut-être un peu de qualité en profondeur. Et si les médias, si les adversaires avaient pris le temps de regarder un peu ces Diamondbacks, ils auraient peut-être vu qu'en grattant un peu, il n'y a pas grand-chose derrière. Le problème, c'est qu'en 2001, le monde du baseball, il a les yeux tournés vers Seattle, hein, les 116 victoires sur la performance d'Ichiro Suzuki, qui est rookie
doublé,
de
ouais.
Et MVP, sur les performances, on parle de stupéfiants, les performances de Barry Bonds, hein, les 73 home runs et la course au record pour battre le record de... Maguire.
Oui.
Sur les Yankees, triple tenant du titre. Donc du coup, les D-backs, ils vont remporter la division pour deux victoires, je crois, par rapport aux Giants. Mais en même temps, personne ne va vraiment faire attention à eux parce qu'il se passe tellement de choses autour.
Hein. Et ben, c'est surtout les petites dernières, donc on ne sait pas trop qui c'est. Ces mecs de Phoenix, ils sont en train de gagner des matchs, qui se qualifient pour la post-saison et surtout qui vont affronter les Cardinals, hein, de Saint-Louis en Division Series, qui sont pourtant une très bonne équipe avec un certain Albert Pujols qui est déjà là et qui fait déjà des miracles, quoi.
Et Albert Pujols, d'ailleurs, qui va faire souffrir Randy Johnson dès le premier match, hein, puisque c'est lui qui va frapper le tour un home run dès la deuxième manche, qui va mettre Johnson en difficulté, puisque je crois que j'ai pas le score exact sous les yeux, mais je crois que les Diamondbacks ont perdu le match 3-1 ou 3-2 au final, hein, le premier match. Donc, première défaite de Randy Johnson en post-season avec les D-backs. Bon, on va pas spoiler tout de suite, mais ce sera la dernière de cette saison-là. Donc, c'est dans le match 2, pardon.
Ouais, c'est face à Woody Wilson qui va frapper ce home run Albert Pujols, mais il n'y a pas de t'inquiète.
Mais donc, heureusement, Curt Schilling va faire le boulot en remportant les matchs 1 et 5. Ils vont gagner un troisième match au milieu, et donc voilà, c'est... Curt Schilling qui remporte quand même avec deux matchs complets et un seul run concédé, hein, sur ces deux matchs. Et donc, il va tenir la franchise sur ces séries et puis ça va avancer tranquillement. Tout ça pour aller se retrouver face aux Braves de Maddux et Glavine en Championship Series. Et cette fois-ci, c'est Johnson qui va lancer la machine sans se poser de questions. Match complet, aucun run concédé. 11 strikeouts.
Et surtout, il faut le rappeler, c'est face aux Braves de quand même de Greg Maddux et de Tom Glavine, hein, donc des on l'a dit, hein, en toute franchise des Braves à cette période, les Atlanta Braves, c'est quand même une franchise au top du top, même s'ils sont un peu sur la pente descendante, mais ça reste quand même la franchise mythique dès la fin des années 90. Donc c'est quand même du très très lourd en face, mais comme tu l'as dit, Randy Johnson, il est encore meilleur, j'ai envie de dire, que la magie des Braves, quoi.
Voilà, et ça va enchaîner derrière lui, puisque les D-backs vont faire absolument exploser Maddux dans le match 4, alors qu'il y a déjà 2-1 pour les Diamondbacks.
Ils vont gagner 11-4 le match 4, hein, tu l'as dit, très beau match de Phoenix avec cette équipe, et donc qui vont arriver au match 5 avec évidemment Curt Schilling sur la butte, quoi.
Johnson sur la bête pour la match 5 cette fois, parce que c'était dans les séries contre Saint-Louis où c'est Cushing qui finit. Cette fois, c'est Johnson qui finit, voilà, le boulot avec 7 manches lancées, victoire 3-2 contre Tom Glavine. Et donc, les D-backs filent en World Series pour aller se faire absolument éparpiller façon puzzle par les Yankees. Enfin, c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on se dit. Quoi. Et dans un monde normal, les D-backs auraient probablement fini par sauter contre les Yankees. Les Yankees de Jeter, de Rivera, de Petit, de Clemens, de Soriano, de Jotoré, qui viennent de fusiller les Mariners, hein, les Mariners qui avaient absolument éclaboussé la saison régulière. Bon, ils se sont pris 4-1 contre les Yankees, bon, aucune question. Mais 2001, c'est pas une année ordinaire, parce qu'on sait qu'on est, on est 6 semaines après les, enfin, ou 6 ou 8 semaines après les attentats du 11 septembre. Les matchs à New York se jouent avec une charge émotionnelle incroyable, et particulièrement les matchs de World Series. Hein. On a George Bush qui vient donner le premier pitch, on a la foule qui est toutes les 2 minutes par USA, USA, USA. C'est tout le monde qui est au bord des larmes avant les matchs. Enfin, c'est vraiment, vraiment...
Ouais, une atmosphère particulière, on va dire, à gérer, en tout cas pour le club de New York, des Yankees, en plus de la pression de gagner leur 4e titre de suite. Ils ont aussi cette pression émotionnelle supplémentaire qui rajoute sans doute, qui vont rendre un peu les épaules un peu lourdes, on va dire.
Voilà, qui savent, cela dit, très très bien gérer, puisque finalement, c'est peut-être l'avantage du terrain qui va faire la différence sur cette série. Mais il y a vraiment une ambiance vraiment bizarre. Heureusement peut-être pour les D-backs, donc on commence à Phoenix ces séries. Et après l'ouverture du score de Jeter sur un double de Williams, c'est Craig Counsell va égaliser d'un home run. Et pendant que Curt Schilling prend son rythme de croisière et part sur la même sorte de niveau de performance qu'il a eu depuis le début des séries, Mac Mussina et Randy Schott vont exploser, concéder 8 home runs dans les 3e et 4e manches. Et match infini, avant que Randy Johnson, sur le match 2, fasse son deuxième complete game shutout de la post-season pour une victoire 4-0. Donc, ça va être difficile à New York à cause de l'ambiance, mais quand même, les Diamondbacks arrivent avec 2 matchs d'avance, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, ils reviendront à Phoenix pour au moins un match 6 et peut-être un match 7. Et surtout, à New York, ils ne vont pas passer loin de faire le break au Yankee Stadium. Mais évidemment, c'est les Yankees de 2001, ça reste les Yankees qui ont remporté les World Series 98, 99, 2000, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais les D-backs vont s'accrocher, et les New York va juste vraiment réussir à passer à chaque fois, remportant le match 3 par 2-1, remportant le match 4, 4-3 en 10e manche, on était mené 3-2 dans la 9e, et le match 5, 3-2 en 12e manche, on était mené 2-0 dans la 9e. Donc à chaque fois, les Yankees, ils passent vraiment, mais ric-rac. Et l'image que j'aime bien pour définir un peu ce match, c'est un peu un côté du combat Ali contre Frazier dans la jungle, où Frazier frappe, mais Ali tombe toujours pas. Et puis Ali, il va rentrer à Phoenix, et là, ça, il va se passer quelque chose, puisqu'à Phoenix, pour les matchs 6 et 7, c'est d'abord Curt Schilling, pardon, d'abord Randy Johnson, d'abord Randy puis Curt Schilling qui vont lancer les derniers matchs. Donc dans le match 6, ils vont absolument oblitérer Andy Pettitte en lui collant 6 runs. Ensuite, dans la foulée, on en affichant 9 de plus sur son rollover, donc Jay Witasik. Donc pour une victoire 15 à 2.
Avec Randy Johnson qui va lancer 7 manches, qui va encaisser 2 points. Ça va lui changer un petit peu avec 7 strikeouts au total, mais quand même une plutôt bonne performance face à l'attaque de New York, qui, tu l'as dit, hein, qui compte des joueurs comme José Posada, Derek Jeter, Alfonso Soriano. Donc plutôt cohérent. Donc on arrive sur ce match décisif, ce match 7. Avec évidemment deux monstres sur le monticule, hein, Roger Clemens pour les Yankees et Curt Schilling pour les D-backs, et les deux vont se livrer à un magnifique duel, quoi.
Donc ouais, vous l'aurez compris, un match où on ne verra pas beaucoup de runs, hein, c'est les D-backs qui vont tirer les premiers avec un double de Danny Bautista en 6e manche. Les Yankees vont répondre quand Tino Martinez va faire entrer Derek Jeter dans la 7e. Soriano va finalement faire sauter Curt Schilling en 8e manche. Qui va être remplacé par Miguel Bautista, puis Randy Johnson. Hein. C'est Randy Johnson donc, qui va venir finir la 8e manche le lendemain de son match 6 pour jouer la 8e manche et terminer la 9e. Le problème, c'est qu'en face, Roger Clemens allait laisser la place en 7e manche à Mariano Rivera, donc le marchand de sable. Donc, il va expédier le bal à la 8e manche. Johnson va en faire de même avec le haut de la 9e, mais là, on se dit quand même à 2-1 pour les Yankees, ça risque d'être compliqué. C'est Rivera, on ne peut rien faire contre Rivera en 9e manche, surtout dans un match 7, surtout dans un match où le vainqueur embarque tout. Et pourtant, c'est là que Brindley qui va faire sa pièce son chef-d'œuvre, hein, avec un coaching très, très agressif pour se mettre en position. Alors d'abord, il va faire entrer Margresse qui va frapper, qui va aller au premier but. Il va faire entrer un pinch runner, David Delucci. Ensuite, il va faire Damien Miller va atteindre le premier but à son tour sur un mauvais lancer de Rivera vers Jeter pour tenter d'éliminer Delucci au deuxième but. C'est Jabel qui va ensuite rentrer en pitch hitter, tenter le bunt, rater. Donc Delucci est éliminé, mais Miller et Bell restent en première et deuxième place. Il va rentrer un autre pinch runner pour remplacer Miller donc au deuxième but, qui lui va égaliser sur le double de Tony Womack, donc le Tony Womack qui frappe ensuite. Prochain lancer de Rivera qui n'est pas dans son assiette, c'est Craig Counsell qui reçoit un lancer au poignet, et là, les bases sont pleines. On a Jebel, le premier joueur recruté par la franchise en troisième base, Luis Gonzalez, l'idole des fans, le premier gros slugger de la franchise au bâton, et Matt Williams, on en a parlé tout à l'heure, l'autre D-back du tout premier jour qui est en deck, prêt à suivre, ouais, suivre à la batte.
On sent que l'histoire est en marche, que tous les astres sont en train de s'aligner avec, comme tu l'as dit, ces premiers joueurs recrutés par la franchise et la grande star, bah, Luis Gonzalez, quoi.
Le grand star Luis Gonzalez qui va faire, qui va pas du tout lancer un énorme run dans les stands, qui va lancer un petit blooper qui va passer juste au-dessus de la tête de Jeter qui peut absolument rien faire parce que c'est juste au-dessus de la tête mais 2 mètres au-dessus quand même. Jabel file au marbre, tombe dans les bras de Matt Williams et le Bank One Ballpark est en fusion absolue et les Diamondbacks, contre toute attente, ont remporté les World Series 4-3 en renversant Mariano Rivera dans la dernière manche. Coach Hilling et Randy Johnson évidemment sont nommés co-MVP des World Series, hein, puisqu'ils ont terminé la post-saison entière avec un bilan respectivement de 4-0 et 5-1 des IRA de 1-12 et 1-98 sur l'ensemble de la post-saison. Et
ils ont... c'est stratosphérique, quoi.
Voilà, et ont absolument annihilé les World Series face aux Yankees, oui. Les D-backs vont remporter le premier titre de leur histoire après 4 ans seulement. C'est un record dans l'histoire de la MLB. Le premier titre de l'Arizona dans un sport majeur et le seul titre à ce jour de l'Arizona dans un sport majeur masculin, puisque les seuls autres titres majeurs d'Arizona sont les Phoenix Mercurys de Colangelo, donc en basket féminin, en 2007, 2009 et 2014.
Donc oui, hein, c'est l'apothéose, j'ai envie de dire, pour Colangelo qui s'offre enfin un titre, et c'est aussi l'apothéose pour les D-backs avec ce titre record, tu l'as dit, en termes de précocité. Mais la grâce, j'ai envie de dire, elle sera de courte durée, hein, et la chute aussi rapide que l'ascension, car malgré une saison 2002 marquée par un nouveau titre de division et un nouveau trophée de Cy Young pour Randy Johnson, la suite ne sera qu'une longue descente aux enfers, quoi.
Ouais, pas tant une descente aux enfers qu'en fait, ils vont devenir banals, en fait. C'est du jour au lendemain, ils vont gagner le titre, et puis après, ils vont devenir vraiment banals, et puis ça va monter, descendre, ça va être des mauvaises saisons, des saisons moyennes. Ils vont quand même gagner un nouveau titre de division en 2002, donc leur troisième en 5 ans. Randy Johnson va obtenir son quatrième CI Young Award consécutif avec une triple couronne, mais les D-backs vont être sweepés par les Cardinals en division de série, donc la revanche de 2001. Et puis après, bon, voilà, ça descend doucement, comme tu dis. En 2003, ils ont un bilan positif, mais troisième place de division. Kurt Schilling s'en va à Boston, où il va remporter le titre en 2004. En 2004, c'est Johnson qui va s'en aller aussi, hein, après son quatrième Cy Young. Mais le plus gros problème, c'est pas tellement au niveau du sportif, c'est au niveau financier. Parce que partir de rien et remporter les World Series en moins de 5 ans, ça a un coût. Colangelo, on va pas dire qu'il a magouillé, mais enfin, il a demandé aux joueurs de déférer un peu leur salaire, d'être payé un peu plus tard à partir de 2004 pour pouvoir vraiment construire cette équipe qui va jouer le titre. Le problème, c'est qu'il a une grande gueule, mais il n'a pas forcément dit à ses investisseurs que ça allait se passer comme ça. Et du coup, les dettes s'empilent. Le conseil d'administration de la franchise va rapidement lui demander de démissionner. Merci pour tout ce que vous avez fait, Monsieur Colangelo, mais maintenant il va falloir partir et puis il va falloir éponger les dettes. Et pendant ce temps-là, la franchise va réaliser la pire saison de son histoire avec 111 défaites donc pour 51 victoires. Donc, on fait table rase.
On fait table rase, exactement, ouais. On met de côté l'euphorie de 2001 et on passe, entre guillemets, aux choses sérieuses. C'est-à-dire d'abord, on remet le club à jour au niveau de ses dettes et au niveau financier. Et ensuite, on se concentre sur le terrain. Mais le terrain devient vraiment secondaire, quoi.
Voilà, le terrain devient secondaire. Et puis en plus, on n'a pas forcément une vraie ligne directrice. Donc, l'homme d'affaires Ken Kendrick va devenir l'actionnaire majoritaire du club. Ils vont essayer de mettre les choses en place, mais il va se passer pas mal de petites situations un peu inconfortables. Comme, par exemple, ils vont recruter Wally Backman pour devenir le manager, le virer une semaine plus tard parce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait des casseroles. Recruter Bob Melvin. Ils vont virer le general manager, donc Joe Garagiola, qui était l'homme de confiance de Colangelo. Et recruter George Burns, qui est aujourd'hui le vice-président des Dodgers. Et les saisons de saison qui vont suivre, ça va vraiment être des saisons de transition où il n'y aura vraiment pas grand-chose à se mettre sous la main, à part peut-être la progression météorique de Brandon Webb, hein, qui va être CI Young en 2006, vice-CI Young en 2007 et 2008, et puis qui va très rapidement disparaître, absolument plombé par les blessures. Les Diamondbacks vont quand même revenir sur le devant de la scène quelques fois, hein, en 2007, 2011, 2017. Mais c'est vraiment une impression de une succession de courtes reconstructions qui, à chaque fois, culminent sur une bonne saison, puis un retour à la normale, et puis une autre courte reconstruction. Donc voilà, on a l'impression que les Diamondbacks ne savent pas trop où ils vont. Ils essaient des reconstructions, mais ils ne vont pas au bout. Ils ont des saisons qui fonctionnent bien, mais ils ne capitalisent pas dessus. Donc, c'est depuis, en fait, jusqu'à 2017, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment ligne directrice.
Effectivement, tu l'as dit, hein, la franchise a du mal à trouver de la continuité après ce titre qui était censé lancer définitivement cette franchise vers les sommets, ou en tout cas pour s'imposer sur le devant de la scène. Et justement, pour tenter de contrer un peu ce signe indien, l'équipe du désert va opérer d'abord une refonte complète de son identité visuelle, histoire de bien montrer qu'on passe aux choses sérieuses, qu'on passe à autre chose. Et c'est ainsi qu'en 2007, pardonnez-moi, le mythique violet de la franchise des D-backs disparaît des tuniques, qui est remplacé donc par le rouge et le noir actuellement. Sur le terrain, les fans ont droit à quelques sursauts d'orgueil, tu l'as dit, hein, en 2007, 2011 ou 2017. Mais rien de bien transcendant, puisque l'équipe aussi, entre espoir, tu l'as dit, et année de reconstruction les saisons suivantes. Mais bon, il y a quand même des 2-3 petits joueurs qui apportent un peu de bonheur à ces supporters de Phoenix. On pense à des Upton, Dan Arren, ou ben, après, évidemment, la nouvelle légende de la franchise, un certain Paul Goldschmidt.
Ouais, c'est ça. Donc, comme tu dis, hein, ils vont quitter le turquoise violet qui faisait quand même très, très, très années 90 néon pour du rouge et noir beaucoup plus classe. Et je ne dis pas ça en tant que supporter du Stade Rennais, évidemment. Ils vont complètement renouveler l'effectif aussi, hein, puisqu'il va y avoir des jeunes qui vont arriver. Mais en même temps, ils vont perdre Luis González, Jay Bell, Craig Council. Ils vont totalement tourner la page 2001 en 2007 et accueillir donc des jeunes comme Justin Upton. En 2007, ils vont quand même défier complètement la logique aussi, hein, puisque... Il y a une statistique intéressante de Baseball Reference pour regarder leur bilan de 90 victoires et 72 défaites. Une statistique qui s'appelle la part de chance d'après Baseball Reference, qui est en gros un équivalent des expected wins. Et si la logique avait été respectée, ils auraient eu 11 victoires de moins et auraient fini la saison avec 79 victoires. Pourtant, ils ont un différentiel de run négatif également. Enfin, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils réussissent à finir avec le meilleur bilan de toute la National League, 90 victoires. Ils enchaînent en sweepant les Cubs pendant les Division Series, avant de se faire sweeper eux-mêmes par les rivaux locaux, donc des Colorado Rockies, qui, eux, à leur tour, se feront sweeper par les Red Sox de David Ortiz. Donc, prometteur, même si on se demande un peu comment ils ont réussi à arriver jusque-là. Et pourtant, encore une fois, il n'y a pas vraiment, vraiment, vraiment de ligne directrice. Tu n'as pas vraiment l'impression qu'ils vont construire là-dessus. Ils vont faire de grands, grands trades, hein, comme Dan Arend qui va arriver des Athletics pour, en échange de 6 joueurs, hein, ce qui est quand même assez énorme, 6 prospects, hein, même si ce n'est pas forcément des gros prospects. Et puis, ça va encore tourner comme pas possible. Hein, donc, Derrick Hall va être nommé président. Lui est resté depuis, donc ça, depuis 2007. Par contre, tous les autres postes du post-office, donc Bob Melvin va sauter en 2009, remplacé par Edgy Hinch, hein, qui est aujourd'hui l'entraîneur des Tigers, qui est passé évidemment par tes chers Astros. Ben, Hinch, il ne va pas durer longtemps, puisqu'il va sauter un an plus tard, en 2010, en compagnie du GM, Josh Burns. Il va être remplacé par Kirk Gibson, qui lui, aujourd'hui, est l'entraîneur des Rangers. Tandis que Jerry DiPoto va prendre l'intérim en tant que GM. Le temps que Kevin Towers, qui ne sera pas une grande, comment dire, de longue
durée, on va dire.
Qui ne sera pas de grands souvenirs à l'Arizona, ne prenne sa place. Donc, encore une fois, ça va se mettre en place, ça va ronronner. En 2011, encore une fois, ils vont faire une belle saison, presque aussi incongrue que 2007. Ils vont s'appuyer sur le management de Gibson, un pitching staff plutôt solide, hein, avec Ian Kennedy, Daniel Hudson notamment. Une saison élite de Justin Upton qui arrive au sommet, et malheureusement pour lui, ce sera plus ou moins le dernier sommet de sa carrière. Ils vont réussir à renverser les Giants, remporter le titre de division, mais pour aller s'incliner dès les Division Series face aux Brewers. Et puis on repart sur les transitions. Chris Young s'en va, Justin Upton s'en va, quelques autres bons jeunes arrivent, hein, donc Wade Miley qui apparaît dans la franchise et qui fait son apparition et pour son année rookie mène la franchise en termes de victoires et strikeouts. Mais Wade Miley, ça a toujours été un bon lanceur, ça n'a jamais été un très grand lanceur, donc il est déjà dans ce genre de niveau à ce moment-là. Il ne se passera pas grand-chose, si ce n'est quand même l'apparition en 2011 dans les majeures de Paul Goldschmidt, qui va doucement s'imposer comme le nouveau Monsieur Diamondbacks, avec une saison 2013 de feu, notamment pour vraiment s'annoncer comme un futur très grand, et une deuxième place au classement du MVP à cette saison-là, derrière Andrew McCutchen, qui joue aux Pirates.
Et Paul Goldschmidt, hein, qui, comme tu l'as dit, s'impose comme la nouvelle figure de la franchise, the face of the franchise, et qui fait un peu suite à Luis Gonzalez dans la catégorie... gros slugger, meneur d'attaque, etc. Mais Goldschmidt est également aussi très très important dans la communauté de Phoenix en dehors des terrains. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour cette franchise et qui a un peu porté sur son dos toute la franchise de Phoenix jusqu'à son départ du côté des Cardinals.
Ouais, voilà, puisque 2013 à 2018, c'est vraiment, il incarne l'excellence non seulement chez les Diamondbacks, mais au niveau de toute la franchise, hein, donc avec notamment 3 podiums au MVP, 6 participations au All-Star Game, 4 Gold Gloves. Il est excellent au bâton, il est excellent en défense, c'est un véritable leader. Donc c'est vraiment lui qui va être le fer de lance de cette équipe qui va doucement se mettre en place. Donc autour de Torre Lovullo, hein, qui remplace Kirk Gibson, qui va se mettre en place pour aller en 2017 s'offrir un dernier voyage pour le moment en post-saison. Donc une équipe solide avec donc on parle de Goldschmidt, mais l'infield également Brandon Drury, Ketel Marte, Jack Lamb qui sont de bons joueurs de MLB, ouais, voire plus. Pollock Peralta dans l'outfield, Zach Greinke et son méga contrat, ils sont allés chercher Zach Greinke, donc à l'époque
Ils ont voulu refaire un peu une Randy Johnson en offrant un énorme contrat au meilleur lanceur de l'époque, pour rappeler, parce qu'il est difficile pour la franchise de Phoenix d'apporter des joueurs, c'est difficile de convaincre des joueurs de venir dans l'Arizona, donc ils sont obligés parfois de surpayer un peu les joueurs, et pour attirer des joueurs comme Zach Greinke ou Randy Johnson à l'époque, il faut sortir les billets et sortir plus d'argent que d'autres franchises, par exemple. Donc, énorme contrat pour Zach Greinke, toujours d'actualité, jusqu'en 2021, son gros contrat a pesé lourd sur les finances des D-backs, quoi.
Oui, et donc, autour de Zach Greinke, ils ont quand même en plus une jeune rotation qui est plutôt pas vilaine, hein, puisque elle comprend également Roby Ray, hein, le Cy Young 2021, Patrick Corbin, champion avec les Nationals en 2019, Tyrone Walker qui joue aujourd'hui chez les Mets, et Zach Godley. qui on a plus ou moins perdu. Je sais
bah, pas qui exactement. Fait un peu, qui fait un peu des allers-retours entre plusieurs franchises, mais qui reste un lanceur, on va dire, correct.
Un lanceur fiable.
Voilà, on va dire ça.
Dans le bullpen, il y a Archie Bradley, Andrew Chafin et l'infatigable Fernando Rodney cette saison-là. Hein, donc Rodney qui doit avoir le record du nombre de franchises pour lequel il a été closer.
Il se bat avec Edwin Jackson hein, pour le nombre de franchises différentes dans leur carrière. Mais c'est vrai que Fernando Rodney, il a pas mal parcouru les stades américains, que ce soit en tant que visiteur, mais aussi à domicile.
Voilà. Et donc... Voilà, donc un effectif, pas un effectif de rêve, mais quand même un effectif solide à tous les postes, qui offrira un spectacle incroyable en 2017 lors du Wildcard Game face au Colorado Rockies de Nolan Arenado. Donc on se souvient de ce match, une victoire 11-8 des Diamondbacks, avec notamment le triplé héroïque d'Archie Bradley qui ne savait pas ce qu'il faisait à courir autour des bases pour donner un avantage décisif aux Diamondbacks. Mais... le problème, c'est qu'au tour suivant, dans la Division Series, ils vont se retrouver face à l'épouvantail, face au monstre absolu hein, de notre époque, les Dodgers. 3-0, 3 petits matchs, et puis ils s'en vont les Diamondbacks. Et on recommence à ce moment-là. On repart sur une, on part cette fois sur une véritable reconstruction, il semble. Dès 2019, il va y avoir le trade de Greinke hein, qui va partir aux Astros. Même si les Diamondbacks ont gardé une bonne part de son salaire. Et ensuite, on va se mettre à parler. Quoi.
Ouais, le départ de Goldschmidt, on l'a dit, il y a Edgy Pollock également qui est parti. Et donc, on arrive donc, en 2021 où cette équipe enchaîne les bas-fonds de la MLB avec deux saisons consécutives à la dernière place. Donc il y a eu la saison 2020 qui a été quand même, on va dire, tronquée hein, par le Covid, et cette saison 2021 avec un retour à 110 défaites, à une petite défaite du record de 2004 pour cette équipe des D-backs. Et tu l'as dit, enfin on sait où elle va cette franchise. Après avoir tenté de gagner, de continuer à gagner et d'enchaîner les saisons positives avec les saisons négatives, là c'est définitif. On est dans la reconstruction. On a des bons joueurs qui sont déjà là. Je pense notamment à Zach Gallen, Pavin Smith et Dalton Varshaw notamment. Il y a aussi pas mal de petits prospects qui sont en train d'arriver par la draft, avec Jordan Lawlor qui a été sélectionné très haut dans la dernière draft. Donc c'est un arrêt court, mais qui devrait être plutôt intéressant. Il y a des joueurs comme Corbin Carroll, il y a comme Christian Robertson. Donc c'est des noms qu'il faut suivre pour le futur des D-backs. Pas pour tout de suite, on vous rassure, mais c'est des noms à suivre. Et puis dans le trade de Greinke qui a été plutôt réussi, j'ai envie de dire, parce que pour bouger un tel salaire, c'était quand même assez compliqué. Donc tu l'as dit, ils ont quand même pris une partie du salaire pour l'envoyer aux Astros, et les Astros en échange ont envoyé des prospects, pas des super prospects, mais des bons prospects qui peuvent devenir pas des superstars, mais des bons joueurs comme Corbin Martin, Seth Beer ou Jimmy Bukauskas. Voilà des joueurs qu'il faudra suivre pour le futur de nos amis des D-backs. Mais voilà.
Suffisamment rare pour le dire, les quatre prospects ont tous joué en MLB déjà à un moment ou à un autre. Donc voilà. ça donne quand même une idée, c'est pas forcément le prospect nommé plus tard qui finira en single A. Quoi.
C'est ça, c'est des joueurs qui peuvent apporter, qui peuvent avoir une contribution du côté de nos amis des D-backs. Mais vous l'avez compris, niveau sportif, ça va pas être joli avant un petit moment, mais au moins, Bastien, on sait où on va, quoi. On sait que cette équipe se reconstruit, elle essaie de repartir sur des bonnes bases et essaie de faire un peu comme toutes les autres franchises qui ont gagné des titres, c'est-à-dire repartir avec des joueurs du cru et donc pouvoir après ensuite, grâce à ces petits salaires de rookie, s'offrir des grosses superstars pour additionner les faiblesses ou les manques que les rookies ne peuvent pas avoir, quoi.
Voilà, s'offrir des superstars par la draft et par la free agency, mais beaucoup plus tard. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont, comme je disais, ils ont bazardé tout ce qu'il y avait à bazarder. Hein, donc, ils ont gardé quelques cadres, donc Nick Ahmed, Ketel Marte, Peralta, donc des bons joueurs de MLB sans trop de grandes ambitions. Il faut juste qu'ils réussissent à se débarrasser du salaire de Bumgarner, parce que Madison Bumgarner, c'est quand même une belle erreur de casting. Et là, par contre, c'est de l'intradable, parce que personne ne va vouloir prendre ses 18 millions par an aujourd'hui. sauf grosse saison. Et donc, ils vont en même temps, ils développent les futurs visages de la franchise, que devraient devenir des joueurs comme Zach Gallen, tu en parlais, Pavin Smith, Josh Van Meter, Dalton Varsho, etc. Donc, eux sont déjà tous au niveau MLB et vont pouvoir justement s'aguerrir en attendant l'arrivée des Lollards et du premier tour de draft 2022. Hein, donc, puisque
ils ont fini dernier, ouais.
Voilà. Puisque les D-backs ont de nouveau fini dernier. On peut s'attendre à ce que les D-backs commencent à arriver sur le devant de la scène. 2025. Au plus tôt, je dirais en 2024. Pas forcément nécessaire pour eux de trop se dépêcher parce que la NL West reste très dense. Donc, d'ici 2024-2025, on peut espérer que les D-backs à nouveau s'ouvrent une fenêtre. Et peut-être cette fois une fenêtre un peu plus longue, dans la mesure où ils auront pris le temps de reconstruire quelque chose de solide. Mais après, encore une fois, les voies du baseball sont insondables, donc on verra à ce moment-là.
Et impénétrables, effectivement. Donc, vous l'avez compris, hein, il va falloir attendre un petit peu avant de revoir nos amis des D-backs sur le devant de la scène. Et pour patienter, en attendant, on vous propose notre traditionnelle rubrique du top 5 des joueurs de la franchise, non pas classés, mais des 5 joueurs qu'il faut absolument connaître et qui sont passés par cette équipe. Bon, vous l'aurez compris, il y a eu quelques indices hein, durant l'émission. Mais Bastien, the floor is yours. Et on commence donc par le cinquième joueur qu'il faut absolument connaître.
En cinquième, c'est vraiment difficile parce qu'on aurait pu parler de Jay Bell, on aurait pu parler de Steve Womack, on aurait pu parler de Steve Finley. J'ai pris Brandon Webb parce que Brandon Webb, il a quand même eu 3 saisons chez les D-backs absolument exceptionnelles hein, avec une première place au Cy Young et 2 secondes places. 3 fois All-Star avant de. Donc, ça, c'est 2006 à 2008. Avant de prendre sa retraite dès 2009, hein, donc après même pas 7 saisons en Major Leagues, complètement plombé par les blessures. Mais c'est vraiment le rayon de soleil dans l'après victoire en World Series. Donc, vraiment un lanceur exceptionnel qui aura peut-être mérité de tenir le coup physiquement un peu plus longtemps.
Un peu une comète, on va dire, ce Brandon Webb qui est monté très très vite et qui est redescendu malheureusement également très très vite. On passe à la quatrième position, mon cher Bastien.
À la quatrième position, il aurait peut-être mérité d'être plus haut, mais j'avais du monde à mettre au-dessus. C'est Curt Schilling. Combien de titres de CI ont Curt Schilling, Martin?
Bonne question, je dirais 3.
Et non, il a fini 2 fois derrière Randy Johnson quand ils étaient 2-2 Diamondbacks et 1 fois derrière Roger Clemens. Pas de chance, Curt Schilling. Jamais un titre de Cy Young. Et pourtant, il en aura mérité 2-3. Hein. Ça fait partie de ces joueurs qui se sont trouvés dans l'ombre des géants.
Ouais, c'est ça.
Et qui auraient mérité de.
Tu vois, un peu plus. J'ai dit 3, mais 3 fois deuxième. Donc, on veut dire que c'est presque ça. Hein.
Voilà, 3 fois deuxième, 6 fois All-Star. Mais surtout, ses 2 meilleures saisons en carrière. Individuels sont vraiment chez les D-backs, quoique sa saison 2004 avec les Red Sox Champions n'est pas mal non plus. On va dire ses 3 meilleures saisons. Mais voilà, vraiment avec Johnson, on parle beaucoup de Johnson, mais Schilling, il a énormément apporté. Il est peut-être supérieur à Johnson sur la fameuse post-saison 2001, hein, puisque
il a une ERA plus basse que Randy Johnson sur la post-saison.
Il a considéré quelque chose comme 3 ou 4 runs sur toute la peut-être. Je crois 3 runs sur toute la post-season. Il n'a pas perdu, donc voilà, il a absolument éclaboussé la post-season. Donc absolument essentiel dans tout ce qui est arrivé au Diamondbacks sur la post-season 2001, malgré le fait que ce n'est pas forcément un personnage respectable, ceci, cela, beaucoup plus tard dans sa vie, ça reste un joueur absolument incroyable.
On va essayer d'oublier ce qu'il est devenu, ce Curt Schilling qui est tombé un peu dans le conspirationnisme et toutes ces choses dont on n'a pas trop envie de parler en ce moment, mais le joueur de baseball est quand même assez respectable. Il était sans doute moins impressionnant que Randy Johnson et c'est sans doute ce qui lui a coûté justement ses Cy Young, mais était tout aussi efficace. Voilà donc Curt Schilling pour la quatrième position. On passe au podium, mon cher Bastien, avec le troisième personne qu'il faut absolument connaître.
Là encore, c'est vraiment très difficile de choisir entre Paul Goldschmidt et le prochain, mais j'ai choisi Paul Goldschmidt pour cette fois-là, juste pour des raisons de palmarès avec avec les D-backs, donc vous aurez deviné qui est ma prochaine cible. Paul Goldschmidt, donc 8 saisons avec les Diamondbacks, 6 fois All-Star, 3 fois sur le podium du MVP, 4 fois Gold Glover, 4 fois Silver Slugger, leader absolu, défensif, offensif, leader de vestiaire, Monsieur Diamondback, le deuxième Monsieur Diamondback après Monsieur Diamondback, dont je vais parler dans un instant. Hein, je donne beaucoup
de spoilers. On y arrive. De toute façon, les spoilers, on les a eus durant l'émission sur les deux premières personnes de ce top 5. Mais c'est vrai que Goldschmidt a eu la malchance, entre guillemets, d'arriver dans une période plus difficile des D-backs. Il a quand même réussi à les amener en post-season en étant la fer de lance en 2017. Mais c'est vrai que les D-backs n'étaient pas assez compétitifs à cette période. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas de titre. On espère pour lui qu'il en aura avec les Cardinals.
Et finalement, pour l'instant, avec les Cardinals, ça ne se passe pas aussi bien pour lui que ça se passait individuellement à Phoenix. Et les Cardinals, pour l'instant, ils n'arrivent pas non plus à construire leur projet. Donc, il n'a pas beaucoup de chance à ce niveau-là, le pauvre Polo.
On va voir.
Mais bon, il lui reste encore une bonne 5-6 ans devant lui pour se faire plaisir et peut-être aller chercher un titre. Mais
c'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Et par contre, les deux prochains de ce top 5, eux, ont gagné un titre en 2001 avec les D-backs. Je commence un peu à concevoir comment tu as construit ton petit top 5. J'imagine qu'en deuxième position, on retrouve un gros frappeur, quelqu'un qui a une petite polémique sur ses capacités, comme tu l'as dit, stupéfiantes. Mon cher Bastien, j'imagine que la deuxième position n'est autre que Luis González.
C'est ça, Luis González, qui, quand il arrive chez Diamondbacks en 1998-99, pardon, arrive de Détroit, il a une carrière correcte. Hein. Il est major leagueur depuis 90, il fait 10-15 home runs par an, bon, 23-98 avec Detroit. Mais les recruteurs des Diamondbacks vont se dire que, puisqu'il est gaucher, il est gaucher et il se rend compte qu'il y a une différence d'environ 5 mètres entre le mur de champ gauche et de champ droit du Comerica Park à Detroit, qui s'appelle pas forcément le Comerica Park à l'époque d'ailleurs, et le mur de champ gauche et de champ droit d'Arizona. Et ils se rendent compte que si González garde le même niveau de performance à Phoenix qu'il avait à Detroit, il pourrait frapper quelque chose comme 30-35 home runs par saison. Bon. Il va un peu excéder la commande puisqu'il va taper ses 57 home runs en 2001, pardon. Derrière, bien loin derrière Barry Bonds, mais quand même 57 home runs, c'est pas rien non plus. Hein. Il va beaucoup y avoir de questions de poser sur ce qui est apporté par ses progrès au bâton, sur ce qui est apporté par une éventuelle possible consommation de stéroïdes que le joueur va jamais admettre, mais il va y avoir des descentes de police, il va y avoir tout un tas de questions sur du trafic d'hormones de croissance, trafic de stéroïdes et autres autour des Diamondbacks, notamment d'un joueur à l'époque. Mais ça reste un joueur qui a absolument et complètement marqué l'histoire des D-backs, hein, puisque notamment par son apport, parce que c'est lui qui frappe le hit final et de la victoire lors des World Series 2007. Parce que sa saison 2001, hein, donc où il finit troisième au MVP, All-Star, etc. Donc voilà, un joueur marquant et surtout un joueur qui est quand même resté 8 ans chez les Diamondbacks avant de partir prendre sa pré-retraite à Los Angeles et sa retraite en Floride chez les Marlins. Donc un joueur ultra marquant lui aussi de l'histoire des D-backs.
Et ultra marquant, on peut le dire, hein, c'est le premier joueur qu'il faut absolument connaître de ces D-backs. On en a beaucoup parlé dans cette émission. C'est The Big Unit, le gaucher longiligne, Randy Johnson, qui était déjà un gros lanceur hein, du côté de Seattle et de son court passage du côté des Astros, c'était aussi très impressionnant. Et c'est vraiment du côté de Phoenix qu'il a pris toute son envergure de quadruple. Vainqueur de Cy Young consécutif, c'est donc Randy Johnson.
Voilà, Ronnie Johnson, donc 5 fois CI Young, donc 4 fois à Phoenix, vainqueur de la triple couronne en 2020, en 2002 à Phoenix, 10 fois All-Star, MVP des World Series, vainqueur évidemment des World Series, on vient d'en parler hein, avec les D-backs. Donc vraiment, la légende absolue. Une carrière de 22 ans avec un IRA total sur les 22 ans de 3,29. Le seul joueur des Diamondbacks élu au Hall of Fame avec la casquette des Diamondbacks. Donc, vraiment la légende absolue qui arrive chez les D-backs au sommet absolu de sa carrière et non seulement joue à son meilleur niveau, mais s'élève à un niveau qui est au-dessus de tout ce qui peut exister à l'époque. Hein. Pourtant, on est à une époque de Roger Clemens, on est à une époque le mec de Boston, comment il s'appelle ?
Pedro Martinez,
etc. Mais le seul qui va le surpasser dans les années 2000, c'est Roger Clemens, une fois qu'il va trouver la recette pour encore surélever son niveau de jeu. Quoi. On parle vraiment de The Big Unit, une des plus grandes légendes de l'histoire du baseball. Et les 4 saisons qu'il fait avec les D-backs, parce qu'on va occulter la saison 2003 où il est blessé presque toute la saison et puis il va rapidement disparaître. Mais ces 4 saisons 99, 2000, 2001, 2002, c'est peut-être la plus grande période de 4 saisons de l'histoire du baseball pour un lanceur.
Ouais, la période de domination était invraisemblable pour ce joueur. Et puis, en plus, c'était, j'ai envie de dire, un acharné qui a tout donné pour la franchise des D-backs. Tu l'as dit, dans le match 7 des World Series, il rentre en tant que releveur seulement un jour après son match 6 en tant que starter. Et donc, il a vraiment tout donné et donc ça va lui jouer des tours sur sa fin de carrière. Tu l'as dit d'abord avec les D-backs, puis avec les Yankees et son retour ensuite avec les D-backs où des grands problèmes de dos vont venir un peu mettre un terme à sa période de domination et ainsi le voir malheureusement voir souffrir sur le monticule et ne plus retrouver son niveau d'antan. Mais un joueur qui a vraiment tout donné pour la franchise des D-backs, quoi.
Et d'ailleurs, on a un portrait de Ronnie Johnson que tu avais écrit qui est disponible sur Strikeout, sur le site. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la carrière de Ronnie Johnson, de ses débuts à Seattle jusqu'à son retour pour une dernière pige chez les D-backs, tout est sur notre site.
Eh ben, merci, Bastien, pour cette petite passe décisive. Et on va terminer là-dessus avec ce but en or que tu m'offres. The Big Unit, tu l'as dit et je le rappelle une dernière fois, qui est entré au Hall of Fame en tant que D-back. Ils sont ainsi le premier de l'histoire de la franchise et j'imagine que son numéro sera son numéro sera sans doute bientôt retiré au Chase Field. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous être toujours plus fidèles. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Spotify pour ne louper aucun nouvel épisode dans toute franchise et de nos autres podcasts. Et pour retrouver toute l'actualité de la MLB et bien plus, rendez-vous sur notre site The Strikeout ou sur notre Twitter. Merci Bastien d'être avec nous dans ce petit voyage au cœur du désert.
Merci Martin, ça fait un plaisir.
Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, surtout en cette période. C'était Martin. Ciao. Bye bye.
High fly ball into right field. She is gone. In a year.